PSG. À la même heure, il y a aussi la rencontre Leverkusen-Newcastle. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir écoutés. Le prochain journal, ce sera d'ici une cinquantaine de minutes. Très bonne suite des programmes. À l'écoute de la radio.
Radio G. www.radio-g.fr 18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G, présentée par Pierre Benoît.
Ça danse en studio et ça fait plaisir, je le vois bouger sa tête, je ne savais même pas qu'il avait autant d'articulations de disponibles en lui pour pouvoir faire ce genre de mouvement. Bonsoir Adrien.
Bonsoir Pierre Benoît.
Alors, tu nous présentes quoi ce soir?
Ce soir, je vais vous parler parentalité, un sujet que je ne maîtrise pas du tout.
D'accord. Eh ben, ça tombe bien. On a aussi une chronique parentalité. Je sais pas si t'es un fidèle auditeur de l'émission dans laquelle tu opères, mais on a aussi la Daronne Angevine, un jeudi sur deux, si jamais tu souhaites. C'est un mardi sur deux, Sidonie.
C'est plutôt un mardi sur deux, ouais.
Oui, merci, Sidonie, productrice de l'émission. Donc, si jamais tu veux en découvrir un peu plus sur la parentalité, tu peux écouter la Daronne Angevine. Et je dirais à Anaïs, du coup, si elle a envie de rire, d'écouter toi.
D'écouter moi.
Ouais.
Ok.
Bon, on fera ça. À 18h30 à peu près. 18h35 même. Adrien qui ne capte rien. Bonsoir Sidonie.
Bonsoir.
Bah toi, tu ne fais rien ce soir.
Et bah exactement, comme Adrien.
Non, pas tout à fait, puisque tu as été faire un petit tour au défi 24h en Téléthon. C'était le week-end dernier. Et tu nous as concocté un reportage pour nous donner un aperçu auditif audio de ce à quoi ressemble le défi 24h en Téléthon. Ça sonne, ça doit être notre premier invité. Je te laisse aller lui ouvrir. C'est Nathan Simonin, normalement, qui devrait nous accompagner ce soir. On espère que c'est lui. Il sort son EP mercredi prochain. Oui, c'est ça. Non, ce soir. Je suis perdu dans les dates. En tout cas, il sort son EP très prochainement. Il va nous dire quand c'est précisément. Et ce week-end, le 14 décembre à Montreux-Junier, il y a un marché de Noël proposé par MJ Entreprendre. Alors, vous le savez, bah, du coup, Valérie est avec nous pour en parler. Ce sera en deuxième partie d'émission Topette. Et bah, Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette avec Pierre Benoît.
Il est 15h à l'étang Saint-Nicolas à Angers. Sous une pluie légère et dans la fraîcheur de l'après-midi, un petit village éphémère s'anime déjà. Les bénévoles ajustent les derniers barnums, finalisent les préparatifs et peu à peu, les premiers coureurs arrivent. Bienvenue au défi 24h Angers Téléthon. Le concept est simple, faire tourner un maximum de participants pendant 24 heures sans interruption pour collecter des fonds au profit du Téléthon. Un défi sportif, oui, mais surtout humain, solidaire, parfois même inattendu.
Je m'appelle Jérôme Ciodo et je fais partie des Speed Dog Angevin, Canicross, enfin c'est un club de Canicross. Alors le petit ami à quatre pattes, bon bah il s'appelle Tonka. Il y en a un autre qui va courir tout à l'heure, elle s'appelle Choupa. Et c'est dommage, c'est pas comptabilisé, les pas des chiens ne sont pas comptabilisés, malheureusement. Mais peut-être que Pascal, ça va y venir un jour, mais bon, après, voilà, on va bien voir.
Ce coureur venu accompagné de son fidèle compagnon forme un duo inséparable qui illustre parfaitement l'esprit du défi. Courir ensemble, peu importe la manière. Mais ils viennent aussi seuls ou plus nombreux.
Alors, je suis Émilie Riveron, je suis assistante de direction au sein d'un établissement médico-social de l'AFM Téléthon. Je viens courir avec mes collègues au profit du Téléthon. Je trouve que c'est bien d'allier le côté sportif et puis l'élan de solidarité que le Téléthon procure.
Bonjour, moi c'est Martin, j'ai 20 ans et puis je suis étudiant à Angers. On est là pour courir. On va se lancer sur la boucle de 8 km et puis après on verra si on en a plus pour faire.
On est tous les deux étudiants en médecine, donc c'est un sujet qui nous parle. Et moi je commence tout juste la course, mais Martin il aime beaucoup la course, donc c'est l'occasion d'allier deux choses qu'on aime beaucoup et puis de donner de notre temps pour des belles actions.
Tous coureurs viennent avec plaisir, mais Bastien, que nous avons interviewé il y a peu dans Topette, vient malheureusement avec de la fièvre, mais il est quand même venu.
Bah, c'est important quand même d'être là, même si c'est pour faire un ou deux tours. C'est important pour la cause, il faut être nombreux et chaque pas compte. J'ai eu de la fièvre toute la nuit, donc on verra bien. L'énergie et l'ambiance nous emmènera peut-être loin, on verra. Après, on sait jamais, un miracle. Si ça passe, peut-être qu'on ira plus loin, mais Il n'y a rien de sûr.
Entre amis, collègues, en famille ou en solo, les motivations diffèrent, mais l'objectif reste le même. Participer, donner, aider. Derrière les coureurs, une autre équipe ne s'arrête jamais. Une véritable armée de bénévoles mobilisés jour et nuit. À l'entrée du site, malgré la fatigue qui s'installe, les sourires restent ancrés. Ils accueillent, orientent, encouragent, rassurent parfois.
Alors je suis Amélie Delonne, je fais partie de la réserve citoyenne de la mairie d'Angers. Alors à cette entrée de défi 24 heures, nous distribuons des dossards pour les personnes qui vont courir, qui vont marcher, qui vont faire du vélo, pour pouvoir les repérer dans le parc pour des photos ou la nuit pour pouvoir mieux les repérer si souci. Côté solidarité, ça me touche parce que du coup je suis atteinte d'une maladie, pas forcément de la maladie du Téléthon, mais du coup ça me touche.
Moi je m'appelle Hervé, j'ai 64 ans, bénévole depuis 3 ans et participant depuis je sais plus combien, au moins une quinzaine d'années. Alors en tant que bénévole, je m'occupe de l'installation et de toute la partie micro.
Disponibles, organisés, passionnés, sans eux, pas de rotation, pas d'inscription, pas de relais. Et si l'événement rassemble autant, c'est aussi grâce au soutien des institutions locales. Le maire d'Angers, Christophe Béchu, est venu saluer les participants et encourager l'initiative.
Bonjour Christophe Béchu, le maire d'Angers. On est là pour accompagner des gens qui ont des difficultés bien plus grandes que quelques gouttes d'eau qui nous tombent sur la tête pendant quelques tours des temps Saint-Nicolas. C'est un rendez-vous de solidarité et c'est un rendez-vous de fraternité. Parce que c'est pas seulement une occasion de récolter des fonds, c'est aussi une occasion de faire passer un message à des gens qui se battent contre la maladie et qui tout au long de l'année font preuve d'un immense courage. Faire preuve d'un peu d'effort pour eux, quelques heures dans l'année, c'est la moindre des choses. Merci à vous.
Une présence symbolique mais aussi politique qui souligne l'importance du Téléthon dans la vie angevine. Le département du Maine-et-Loire est également engagé, représenté aujourd'hui par sa présidente Florence.
Florence Dabin, présidente du département de Maine-et-Loire. Pour moi, c'est extrêmement important. Je participais au Téléthon quand j'étais enfant, quand j'étais élue municipale. Président du département, c'est important. La cause est belle, la cause est noble. Mais surtout, pour faire avancer la recherche et la santé, c'est essentiel. C'est bien le plus précieux. Alors, quand on a la chance, comme nous, de pouvoir quelque part être libre de nos moindres faits et gestes, c'est important qu'on participe à cette course. Merci et merci de couvrir.
Tout le monde est à fond avant le grand départ, mais au cœur du village, un homme ne tient pas en place. Pascal, président du Défi 24 heures, supervise, vérifie, encourage, répond et relance. En un clin d'œil, il passe de la logistique à la zone de départ, puis au suivi des compteurs.
Pascal Lerullier, j'ai 46 ans, je suis président du Défi 24 heures Angers Téléthon.
Alors le début, c'est dans une demi-heure, donc pour l'instant ça se passe très bien depuis ce matin. On est au taquet avec tous les bénévoles pour la partie organisatrice, monter les toiles de tente, la lumière, l'affichage, la restauration et toute la partie électricité. On a eu quelques petites sueurs froides à midi parce qu'il n'y a toujours pas d'électricité, mais depuis c'est bon, ça a été résolu. Et là c'est une édition qui se prépare très bien. Sans directement déjà cet événement, cette solidarité, cet enthousiasme et les sourires qu'il y a autour du village du défi 24 heures. Donc non, ça va être une belle édition.
Fatigué bien sûr, mais surtout fier. Fier de voir la mobilisation, la générosité, l'énergie qui se dégage au tout début de ces 24 heures, pas comme les autres. Et puis vient l'instant attendu, le top départ. Coureurs aguerris, marcheurs, enfants, adultes, équipes déguisées ou duo improvisé, tous s'élancent. Le défi commence.
3, 2, 1, et top, c'est parti pour l'édition 2025 du défi 24 heures. La 23e édition avec des milliers de participants de la première
année. C'est bon, les 24 heures sont lancées. C'est un soulagement notamment pour la marraine de l'événement.
Bonjour, donc je suis Marine, marraine de l'édition 2025 du défi 24 heures Angers Téléthon. Du coup, je suis chargée de communication dans la vie, j'ai 28 ans et je bosse pour l'association APF France Handicap. On est très contents de voir tous les gens mobilisés malgré le temps un petit peu pluvieux. Mais c'est chouette de voir autant les bénévoles, les participants, les élus, enfin tout le monde mobilisé pour cette même cause, donc c'est très important.
Sous la pluie, mais avec le sourire, le défi 24 heures Angers Téléthon 2025 a explosé tous ses objectifs. Plus de 61 000 km parcourus, 4 800 participants et 190 bénévoles. Sans oublier un montant récolté qui devrait au moins égaler, voire dépasser, les 53 874 euros de 2024 au profit de l'AFM Téléthon. Côté performance, nouveau record. Maxime Aubert s'illustre avec 188 km, suivi de Corentin Ragnaud, 185 km. Tandis que Virginie Hardy brille chez les féminines avec 130 km. C'est ça le défi 24 heures Angers Téléthon. Une ville qui se dépasse, un territoire qui s'unit. Et une preuve, une fois encore, qu'ensemble, on peut tout.
Merci beaucoup Sidonie pour ce reportage. On vous encourage à aller à l'édition de l'année prochaine du défi 24 heures Angers Téléthon. Et surtout aussi, si vous voulez faire des dons, pas attendre forcément un an. Vous pouvez tout simplement vous rendre sur le site de l'AFM. Téléthon. Avant d'accueillir notre invité, ce que je vous propose, c'est de retenir ces dates. On a donc le marché de Noël dont on va parler dans quelques instants, avec proposé par MJ Entreprendre à Montreux-Junier le dimanche 14 décembre. On a aussi le spectacle ce week-end proposé par Sésame Angers, un spectacle de Noël, le Jola Circus, les étoiles de Noël. Un spectacle très haut en couleur et en émotion pour les petits et pour les grands. Radio G est partenaire de l'événement, donc on vous encourage à aller vous inscrire s'il reste des places. Et maintenant, on peut accueillir notre invité qui vient d'arriver sur le fil.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Nathan.
Salut.
Ça va?
Ça va et toi?
Ouais, j'étais en train de te faire un signe. Est-ce que t'as ta guitare ou pas?
Alors je l'ai, sur un temps de pause, je peux vite fait la prendre dans ma voiture.
Oui, écoute, la prochaine pause musicale, c'est censé être ton live, donc ce qu'on va faire, c'est on va faire une pause musicale en pas live en attendant. Tes albums sont sur Spotify par exemple, on peut les trouver assez facilement, je crois, non?
Ouais, carrément. Après, du coup, là, je sors un EP mercredi prochain, et du coup, c'était pour ça que j'étais là aussi, pour parler du Shabada, et il y aura du coup deux exclus. C'est un petit EP, c'est une release party du coup. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Donc ça sortira mercredi. Mais sinon, tout est disponible, oui, sur les plateformes.
Et ce que je te propose, c'est on fait une pause musicale random comme ça. Tu vas chercher ta guitare et après on lance une interview et comme ça on pourra avoir un live, un aperçu de
ces titres
sur le pays. On revient tout de suite sur le 101.5 FM.
Merci.
Des boutons d'or, on surgit comme l'Amérique conquistador.
Dis-moi, MDMA de Claire Laffut sur le 101.5 FM de Radio G. Vous êtes bien à l'écoute de Topette.
Topette avec Pierre Benoît.
Donc, et puis nos invités, nos chroniqueurs. On aura tout à l'heure Valérie pour nous parler de MJ Entreprendre qui fait son marché de Noël le 14 décembre. Avant tout ça, on a Nathan Simonin qui a été chercher sa guitare et qui a repris son agenda aussi, parce qu'en fait mercredi prochain c'est pas le 18 ou je sais pas quoi, c'est ce soir là, la release party, c'est juste après. Tu as un coup de pression énorme. En plus t'as couru pour aller chercher ta guitare parce que du coup tu vas nous faire un petit live d'un des titres qui est sur ton EP que tu sors. Alors je vais essayer de reprendre le fil parce que t'étais venu nous parler déjà de quelque chose, d'une actualité te concernant. On avait un titre, par exemple, qui était un hommage à ton grand-père, il me semble. C'est bien ça, Nathan, hein.
Ouais.
Qui était déjà un EP ou pas? Je me rappelle plus.
Ouais, c'est mon premier EP.
Donc là, c'est le deuxième qui sort.
C'est le troisième.
C'est le troisième. Ouais. Attends, j'ai loupé des infos, là. Est-ce que tu peux nous en faire un petit topo chronologique de tes sorties, s'il te plaît?
Avec grand plaisir. Du coup, j'ai sorti un premier EP il y a 3 ans, je crois. L'an dernier, j'ai sorti un deuxième EP. Il y a eu une release party dans un studio que tiennent mes amis, qui s'appelle le Main Studio, qui a ouvert il y a 1 an tout pile. Et là, du coup, c'est mon troisième EP et je fais la release party, non pas dans ce studio-là, mais au Shabada.
Une release party, en gros, c'est une sortie de résidence. Enfin, on serait au théâtre, c'est une sortie de résidence.
Non, en fait, c'est pas une sortie de résidence. C'est un concert, c'est une fête qu'on fait. C'est un concert pour célébrer la sortie d'un album ou d'un EP. Et ce concert est le même jour que la sortie.
Alors, le nom de cet EP, de ce troisième EP, donc.
Il s'appelle Cœur Bleu.
Cœur Bleu, donc c'est le titre phare qui est dessus, peut-être?
Non. C'est ma copine, du coup, qui a fait la pochette. Et du coup, elle a fait un espèce de très beau dessin où j'ai les cheveux et la barbe bleue. Mon précédent EP s'appelait Paradis Bleu. Et là, du coup, Cœur Bleu, c'est une chanson qui parle d'amour. Du coup, Cœur Bleu, voilà, c'est l'expression américaine, to be blue, côté un peu mélancolique, même si là, c'est plutôt joyeux. Et voilà, c'est le côté, c'est un peu la DA du projet qui se dessine de façon assez concrète. Donc, ça parle de sentiments amoureux. Et pour être complètement honnête, fallait que je le mette sur les plateformes et j'avais trouvé un nom. J'ai pris une nuit de réflexion et le lendemain matin, j'ai dit bon allez, ça va être ça. Et en fait, c'était assez bien trouvé parce que ça matche avec le président EP. Donc voilà, très content d'avoir trouvé ce petit nom.
Alors Nathan, moi je connais ton univers musical, je connais pas encore les titres présents sur ce troisième EP. Les personnes autour de la table peut-être ne t'ont pas encore entendu, on va t'entendre dans quelques instants. Comment tu décrirais ton univers musical? C'est de la musique joyeuse plutôt, on est sur des sentiments, l'exploration de l'âme humaine avec toute sa simplicité, mais la beauté dans sa simplicité.
Oui. Alors du coup, les deux exclus qui sont sur cette EP sont plutôt, voilà, ça parle de sentiments amoureux dans ce que ça du plaisir qu'on peut avoir à être amoureux, en fait. Et j'avais sorti, donc c'est le troisième morceau de cette EP, c'était plutôt sur la rupture, en fait. Donc il y a un peu des deux.
Mais de manière joyeuse?
Alors, en fait, c'est un morceau qui s'appelle Luminescence, qui est d'ailleurs sur les plateformes. Et en fait, pour la petite histoire, je l'avais écrit à la fin d'une relation et on s'est séparés et je devais défendre le morceau après une rupture. Donc c'était pas évident, mais je l'ai quand même fait. Et là, les deux nouveaux morceaux, ça n'a rien à voir. C'est plutôt très joyeux.
Et celui que tu veux nous proposer en live, alors, c'est lequel?
Alors, c'est un morceau qui s'appelle Chaque Jour. Donc, c'est un morceau que j'ai écrit lors d'une résidence cet été que j'ai fait avec mes deux copains du studio. On a pris 4 jours pour composer. Et du coup, je l'ai composé à ce moment-là avec eux. Enfin, plus ou moins, mais c'est un morceau dont je suis assez fier. Et du coup, il y a deux morceaux dont je suis très fier sur cette EP. Ils n'ont rien à voir. Ils n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Celui-là est plus presque bossa nova, plus acoustique, avec toute une production derrière. Et donc voilà.
Alors là, la guitare, j'imagine qu'elle est accordée, puisque dans quelques instants, c'est à 19h15, hein, le début du concert, de la release party. Donc on va te libérer un petit peu avant, quand même, pour que tu aies le temps d'aller au moins jusqu'au Shamada. La guitare est accordée. Est-ce qu'on peut y aller maintenant pour ce petit live où tu fais quelques échauffements vocaux ou que sais-je?
Je peux carrément.
On va faire toum toum. Je te fais
un. Ça a l'air d'être carrément accordé.
Bon bah parfait, on peut encourager Nathan alors pour Chaque Jour en live sur le 101.5 FM avec des petits applaudissements si vous le voulez.
Chaque jour, j'embellis quand je pense à toi, quand je pense à nous, si notre histoire n'existe que dans ma tête, entre rêve et réalité. Je n'y peux rien, je suis complètement possédé. Car chaque jour, j'embellis quand je pense à toi, quand je pense à nous. Si notre histoire n'existe que dans mes rêves, peu m'importe, je pense à tes lèvres. Je n'y peux rien, mon cœur s'élève, je rêve. Chaque jour, j'embellis quand je pense à toi, quand je pense à nous. Chaque jour, j'embellis quand je pense à toi, quand je pense à nous. Si belle et forte, inaccessible,
Je me perds dans tes, je suis la cible. Si je ne te plais pas, je préfère seulement rêver. Car chaque jour, j'embellis, hey, quand je pense à toi, quand je pense à nous, hey.
Bravo! Chaque jour de Nathan Simonin sur le 101.5 FM, issu tout droit de son troisième EP, de ton troisième EP qui s'appelle donc Cœur Bleu. Alors, on a déjà Luminescence, si j'ai bien compris, qui est sur les plateformes de streaming. Carrément. Et là, on va voir tous les titres. Il y en a combien au total sur cet EP?
Alors, c'est un petit EP. Je voulais en faire un 4 titres. J'ai sorti 2 EP 4 titres. Là, c'est un EP 3 titres. En fait, il y a eu beaucoup de préparation pour ce concert. Et en fait, j'ai pas eu le temps de tout faire et je préférais faire un petit EP 3 titres. Que de bâcler un morceau pour avoir absolument un EP 4 titres. Donc ce sera un EP 3 titres, mais dont je suis très fier et chaque morceau est bien, selon moi. Oui. Et voilà, mais parce que du coup, le concert, il y a eu tout un travail de scénographie, de com. Il y a eu plein de choses qui ont été faites au niveau du son. Et il y a eu vraiment un step up, entre guillemets. Et voilà, je pouvais pas être sur tous les fronts et je préférais faire peu mais bien que c'est de bâcler des choses.
Et sur scène, justement, alors qu'on se donne un petit aperçu, ça va être comme ça, juste la guitare, voix, il va y avoir des personnes qui vont t'accompagner aussi.
Alors, du coup, c'est pas la première fois que je le fais, mais c'est sous ce format-là, c'est la première fois, en fait, je suis vraiment en guitare-voix tout seul. Mais du coup, il y aura des bandes quand même derrière. Donc il y a tout un travail aussi, il y a eu tout un travail au niveau du matériel que j'aurai, et comme je disais, aussi toute une scénographie pour que ce soit vraiment un vrai show. Et l'idée, c'est de défendre maintenant le projet en solo. J'étais accompagné de musiciens avant, mais là j'ai vraiment décidé de le faire tout seul maintenant.
Bon, en tout cas, on te souhaite plein de courage. Tu restes avec nous tout à l'heure. On va juste faire un petit crochet par Adrien qui ne capte rien. Et puis ensuite, tu nous en donnes toutes les infos pratiques aussi te concernant pour te découvrir plus largement sur les réseaux sociaux, les clips peut-être à venir ou déjà faits sur ce troisième EP, mais surtout ceux qui existent déjà. Et puis, si t'aimes rire, reste avec nous, Nathan, puisque là, tu vas te marrer.
Adrien capte rien dans Topette, mais aussi chez lui, au travail, enfin partout.
Coucou, moi il y a un truc que je capte pas en ce moment, c'est comment on peut faire des enfants. Enfin pas l'activité, ça, l'activité de concevoir, j'ai fini par capter en observant Pierre Benoît à la soirée, ce qui se passe à Radio G reste à Radio G. Non, ce que je comprends pas, c'est pourquoi s'infliger chez soi la présence d'un être aussi malaisant qu'un enfant. Alors, je suis désolé de vous dire ça, vous qui êtes papa depuis pas longtemps, mais j'ai vraiment très peur des enfants. Moi, quand je croise un enfant, je fais comme quand je croise un sanglier, je reste sans bouger, en espérant qu'il m'ait pas vu. Et s'il me voit, je panique, je fais des bruits de cochon, comme ça. Du coup, les enfants ont aussi peur de moi. J'ai plus le droit de m'asseoir à la table des enfants à Noël, alors que je suis toujours moi-même un enfant. La preuve que je suis toujours un enfant, c'est que je me demande toujours qu'est-ce que je ferai quand je serai grand. J'hésite encore entre pompier, magicien et animateur radio, comme mes idoles, Pierre Benoît, Difool et Cyril Hanouna. Non, moi je suis un enfant qui prend lui-même ses rendez-vous chez le pédiatre pour vérifier son cholestérol, un enfant qui remplit lui-même ses déclarations d'impôts complètement au hasard, mais qui oserait infliger un contrôle fiscal à un enfant. Non, je suis un enfant qui a peur des enfants, et c'est un vrai handicap, surtout professionnellement, parce qu'il y a pas mal de boulot que je peux pas faire. Par exemple, je pourrais jamais devenir prof de poney ou Père Noël. Et ça a l'air de rien, mais quand t'es intermittent du spectacle de plus de 40 ans en surpoids, Père Noël, c'est le genre de proposition que peut te faire France Travail. Et faut pas se mentir, j'ai plus de chances de finir Père Noël à Super U qu'être invité de Topette en tant que Miss Maine-et-Loire. Non, moi je suis pas prêt à avoir un enfant, rien que lui trouver un prénom, parce qu'il faut toujours trouver un prénom pour les enfants, parce que sinon quand ils partent en colonie, on marque quoi sur leur slip? Non, faut trouver un prénom assez commun pour pas qu'on pose trop de questions à la récré, pour pas que les enfants ils lui disent « Pourquoi tu t'appelles Adolphe ?» Et pas trop commun non plus pour pas confondre avec un autre enfant, parce que si tu vas chercher ton enfant à l'école et qu'il y a 3 Timothée dans la même classe, vous prenez lequel, Pierre-Benoît? Vous prenez lequel? Et avec un peu de chance, moi j'aurais des jumeaux. Et je sais pas si on a le droit de les appeler pareil pour simplifier les choses. Mais en même temps, c'est un coup à les confondre, à en perdre un sans s'en rendre compte. quand on les appelle comme ça, Adolphe, est-ce que t'es là? Oui, papa. Adolphe, est-ce que t'es là? Oui, papa. Bon, c'est bon, ils sont là tous les deux. C'est comme ça qu'on perd des enfants, Pierre-Benoît. Non, moi, je veux pas d'enfants et c'est pas grave. Je pense qu'il faut pas forcer le destin. Moi, je pense que le monde aurait été sans doute bien différent si on n'avait pas forcé le destin. Si Adolf Hitler avait pu intégrer les Beaux-Arts, si Xavier Dupont de Ligonnès n'avait pas dû repousser sa vasectomie, si Pierre Benoît n'avait pas invité Jean-Marc Morandini à la soirée, ce qui se passe à Radio G reste à Radio G.
Des tournures un peu presque à la Charlie, les ah. Capteurs là. Hein.
Ah non, pas, ne me compare pas à Charlie.
En tout cas, j'ai compris le coup du oui, les jumeaux, c'est vrai que s'ils ont le même prénom et que c'est le même enfant qui répond deux fois qu'il est là, alors qu'en fait, il y en a deux, c'est ça. Hein.
Merci d'expliquer mes blagues, Pierre Benoît.
Je suis là pour ça. Bon, en tout cas, on se retrouve dans deux semaines, me semble-t-il, Adrien. Casse pas le micro, laisse-le en vie. Et puis, sinon, on peut aussi te découvrir le 22 avril sur la scène du Palace Comedy Club pour ton premier One Man Show, ton setup complet de quasiment une heure.
Exactement, c'est ça.
Voilà, je fais ta promo parce que c'est pareil,
t'aimes bien quand même. Pas très bien, voilà, merci. Voilà.
Bon bah, tu m'embauches, je serai intermittent de ta promo. Bon, c'est parti, on continue dans Topette.
Topette, avec Pierre Benoît, sur Radio G.
Quelle émission, décidément, j'en perds le fil. En plus, je suis parti trop tôt pour la chronique d'Adrien Capturin, donc on a encore un petit peu de temps avec toi, Nathan, pour explorer un peu plus largement ton univers. Alors peut-être déjà les impressions de Sidonie, qui semblait apprier la musique que proposait
ça
Nathan.
Ça fait plaisir.
Tu connais, Sidonie, ce style musical? C'est des univers auxquels tu es peut-être bercé.
J'écoute beaucoup ce style musical. Du coup, là, ça y est, j'ai pris le nom et je vais aller écouter.
Trop bien.
Vraiment, je l'ajoute à ma playlist. J'aime beaucoup.
Elle fera un selfie avec toi.
J'ai un fan.
Juste après. Voilà, ça, c'est ça. Bon, et puis, bah, à contrario, Nathan, est-ce que tu apprécies la chronique d'Adrien?
J'aime beaucoup, et j'aime beaucoup le ton. Je trouve que c'est. Des fois, il y a. Enfin, je trouve que ça reste super, super léger. Et tu forces pas le. Enfin, tu forces pas le truc, je trouve ça vraiment super. J'ai passé un très bon moment.
Oui, sincèrement. Merci. Moi aussi.
À prononcer que 6 fois le prénom Adolphe, c'est tout. C'est pas forcé. Bon, en tout cas, bah, voilà, tu pourras aussi le suivre. Ça fera un fan aussi pour Adrien.
Félicitations pour le palace.
Et bah, c'est pas encore famé, merci beaucoup.
Voilà, c'est ça, Nathan.
Félicitations pour le chevalat.
Nathan, là, t'es toujours très, très ouvert. C'est un petit peu ce qu'on retrouve aussi et dans ta personnalité et dans ta musique. Et justement, au niveau de tes inspirations, qu'est-ce qui t'inspire, toi? Alors, je crois qu'il y a eu des comparatifs de faits sur la présentation du Shabada. Je sais plus à quel artiste on a pu te comparer, tu l'as?
À la base, il m'avait comparé à j'étais pas très content. Mais bon, c'est pas grave. Mais enfin, c'est plutôt du côté blague. J'étais pas très content, j'étais pas fâché contre eux. Mais ils m'ont comparé à Vianney.
Et t'aimes pas ça?
Et c'est pas que j'aime pas Vianney, c'est que c'est trop, pour moi, c'est trop variété. Et justement, donc mon copain Julien, donc je parlais du studio, et à un moment on était tous les deux, il m'expliquait c'est quoi la différence entre la variété et la pop française. Et du coup, je lui ai expliqué la différence, et c'est pas du tout pareil, et il y en a pas un que je préfère forcément à l'autre, c'est juste que pour moi, ça me correspond pas trop. Vianney, c'est voilà tout ce qui est Pascal Obispo, tous les enfoirés, tout ça, c'est vraiment le côté variété française très populaire dans le bon sens du terme. Voilà, on va toucher un public très large. Et moi, ce que j'essaie de faire, c'est un peu plus sans aller sur le côté Beaux-Arts, mais il y a un truc plus niche, quoi. Plus, bah, et du coup, il me compare à Bertrand Belin. Et ça, pour moi, ça. En fait, ils ont dit entre Mathieu Bogart et Vianney. Et Mathieu Bogart, c'est des un peu parisiens, un peu farfelus, mais qui font de la super musique. Donc voilà, il m'avait mis quelque part entre ça et ça. Et donc voilà, ça. Mais moi, j'aime bien le bain de la Simone. En fait, c'est toute une bande à Paris. Il y a JP Nataf, Albin. J'aime bien toute cette mouvance-là. Il y a un artiste qui émerge un peu là, qui s'appelle Mathieu Deslongchamps. Et voilà, il est pas très connu, mais c'est super. Voilà.
C'est intéressant parce que ça veut dire que dans tes propositions, tu recherches plus l'authenticité de ce que toi tu veux mettre plutôt que. J'ai l'impression que c'est ce que tu essaies de dire, c'est qu'en gros Vianney, bah voilà, il a connu un succès, qu'il l'a rendu voilà nationalement très très populaire, du coup dans le côté peut-être pop, variété pop française. Et toi, c'est pas forcément quelque chose que tu vas aller chercher dans tes propositions musicales. Tu restes sur la volonté d'explorer ton univers et tes sentiments.
Ouais,
aussi.
Alors en fait c'est assez pas subtil, mais c'est-à-dire que par exemple Vianney il est jury avec je sais plus le nom de ce chanteur là qui a malheureusement pour lui eu un cancer dernièrement.
Florent Pagny
voilà. Ils sont jurés à The Voice et par exemple ils font pour The Voice des choses que moi j'aimerais pas du tout faire.
que je trouve personnellement pas de très bon goût, où ils ont des tenues, où ils font des spectacles, des fois tous ensemble, et enfin, c'est pas du tout ma
tu te reconnais pas dans ça, en tout cas.
Je me reconnais pas dans ça, et ça, c'est vraiment le côté variété française, où voilà, je me reconnais juste pas dans ça, et c'est vrai que la plupart des gens font pas forcément cette distinction entre variété et pop française, etc. Mais c'est pas du tout pour être pédant ou quoi, c'est juste que c'est deux choses différentes. Et voilà, moi je me vois pas du tout dans le côté variété française.
Et toi, alors Nathan, ouais, comment on peut se faire notre propre avis sur tes propositions, ton univers musical? Alors on a entendu le live. Mmh. Comment on te découvre plus précisément au-delà du concert qui a lieu dans 45 minutes là?
Ouais, et bien sur les plateformes, il y a un clip qui est sorti il y a 3 semaines qui a été réalisé par Morgan Richard, qui est dans un collectif en juin qui s'appelle Prototype, où il y a Josig et je sais plus, ils sont quatre, Chris Taylor, enfin voilà, c'est quelqu'un avec qui ça faisait vraiment beaucoup de temps que je voulais travailler avec lui, et je suis extrêmement fier d'avoir pu réaliser ce clip. Donc c'est un clip d'un morceau à moi qui s'appelle Brûler les photos, qui en fait est sorti sur mon premier EP, mais en fait c'est le morceau qui a le plus plu aux gens, qui a le plus touché les gens, enfin en termes de retour, et je me suis dit on va le clipper parce que je trouve que c'est un morceau vraiment abouti. Et donc ça a été un clip avec, on a pris deux acteurs, Lénaïque que je connaissais du conservatoire, et son copain, et du coup on est allé en Normandie tourner ce clip là et je vous invite vraiment à regarder ce clip là parce que il est vraiment 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 magnifique. Moi je suis pas dedans, et il est vraiment vraiment très beau, et c'est une vraie fierté, un vrai aboutissement. Je sais pas si je l'ai dit, mais du coup, allez le voir.
Avant d'aller le voir, si vous êtes encore à la radio, là, on va l'écouter comme ça. Ça va faire la petite transition. Tu vas pouvoir ranger ta guitare et puis te préparer tranquillement pour la release party là qui est dans quelques instants. Alors s'il reste des places, allez-y. De toute façon, il y aura toujours peut-être un petit peu de place pour profiter de cette release party que propose Nathan Simonin au Shabada dans quelques minutes. Et le troisième EP est à découvrir, donc Cœur Bleu, sur toutes les plateformes suite à cette release party. J'imagine qu'il sera disponible partout. Merci beaucoup, Nathan, en tout cas. Et puis,
avec grand plaisir.
Quand tu veux, on écoute donc Brûler les photos.
Déménager, brûler les photos. Oublier, l'oublier. Déménager, brûler les photos. Oublier, l'oublier. C'est un feu splendide où brûlent quelques photos. C'est un feu splendide de quelques mètres de haut. C'est un plaisir vif, extrêmement fugace. À 4 heures du matin, je me réveille à nouveau. Je mets le tout au coin de la terrasse. Je craque une allumette, ne veut laisser aucune trace. Les dunes et la mer me servent de point de vue. On devait l'apercevoir à des kilomètres. Les flammes brûlaient en un sillon dans ma tête. J'avais une sensation de puissance abstraite. Au dernier moment, j'entends sa voix dans ma tête. Faut-il vraiment le coup que tout s'arrête? Je tombe enfin sur un morceau de photo qui tombe jusqu'à moi et je replonge à nouveau. Je me jette sur un matelas dans le coin de la baraque. Je fixe le plafond, je sens que j'ai le trac. Mettre un terme à toute cette histoire. Revenir à la case départ. Déménager, brûler les photos. Oublier, l'oublier. Déménager, brûler les photos. Oublier, l'oublier. C'est un feu splendide où brûlent quelques photos. C'est un feu splendide de quelques mètres.
Brûler les photos de Nathan Simonin sur le 101.5 FM. Et ben voilà, il vous l'a dit il y a quelques minutes, quelques instants. Il vous encourage à aller voir le clip de cette chanson. On continue avec notre deuxième sujet de la soirée.
Topette avec Pierre Benoît sur Radio G.
Dans quelques instants, on aura la chronique ciné de Mathéo et de Johan qui sont en train de s'installer tranquillement dans le studio. Mais avant tout ça, nous sommes avec Valérie. Bonsoir Valérie.
Bonsoir.
Alors rebonsoir, non, parce qu'on ne s'est pas vu en début de soirée. Mais en tout cas, c'est la deuxième fois que tu viens dans Topette. Tu es la présidente de MJ Entreprendre, qui est une association pour mettre en valeur les artisans, artisanes, les commerces et les boutiques de Montreuil-Junier notamment. Et le dimanche 14 décembre, il y a un marché de Noël avec 25 stands qui seront sur la place Robert Schumann à Montreuil de 10h à 18h. Est-ce que tu peux nous redonner, Valérie, en un tout petit mot, la présentation de MJ Entreprendre? Qu'est-ce que c'est? De quoi tu as la présidence exactement?
De moi-même déjà? Non, j'ai la présidence des entrepreneurs, enfin de l'association des entrepreneurs de Montreuil-Junier et communes alentours.
Voilà, donc ça veut dire toutes les personnes...
Toutes les personnes volontaires pour nous rejoindre et organiser des salons et marchés régulièrement.
sur des thématiques assez diverses et variées. C'est, la dernière fois, tu nous avais présenté un petit peu les différents domaines, les différentes thématiques.
Hein. Oui, oui, oui. On a un salon du bien-être, on a la fête du printemps-été, on a une marche pour Octobre Rose et on a un marché de Noël. Alors, c'est les quatre grandes manifestations. Puis, on aura les petits-déj et apéros des entrepreneurs là, qui commencent dès janvier, dont on avait parlé la dernière fois déjà.
Et on avait parlé aussi de la marche pour Octobre Rose. Comment s'est-elle déroulée, du coup, dessus ?
Eh bien, super bien, puisqu'on a reversé un peu plus de 700 euros à la Ligue contre le cancer. Pour une première marche, c'est juste génial.
Oui, c'était la première fois que vous organisiez ça. Et...
C'est la première fois. Et en plus, on est tombé sur le seul week-end où il faisait beau.
Oui, bah ça c'est bien, voilà. Quand il y a le soleil, ça amène les gens à venir.
Mais je l'avais dit ici en plus.
Oui, je m'en souviens.
Je t'avais dit, ne t'inquiète pas, le soleil sera là, je l'ai appelé, il a dit qu'il viendrait.
Alors, est-ce qu'il sera là le dimanche 14 décembre ?
Oui, il sera là aussi. Alors, il va amener quelques copains les nuages, mais il sera là aussi.
En tout cas, il n'y aura pas de goutte de pluie.
Non, c'est pas prévu.
Bon, bah tant mieux pour les 25 personnes qui vont exposer. Non, il y en a plus.
Ouais, il y en a plus que ça, on est 42 maintenant.
Bah attends, on est passé de 25 sur le flyer à 42 ?
Bah ouais.
Ça a explosé ?
Bah oui.
Et ce sont des personnes que de Montreuil ?
Non, on va jusqu'à Candé.
Ah oui, donc ça a brassé un petit peu plus large.
Oui.
Bon, en tout cas, c'est bien de 10h à 18h.
C'est bien de 10h à 18h et d'ailleurs je lance l'invitation à Adrien, on cherche un Père Noël.
Bah oui, c'est marqué présence du Père Noël, donc là il faut tenir
les engagements. Non mais en fait, pareil, je lui ai envoyé un courrier au Père Noël et il enverra un assistant.
Bon bah tant mieux alors, il y aura peut-être les petits lutins aussi, non ?
Il y aura des petits lutins, oui, bien sûr.
Alors d'un tout petit mot quand même pour présenter ce marché de Noël, l'idée c'est quoi ? C'est vraiment de toujours cette idée de remettre en avant les personnes, au moins qui sont sur Montreuil-Juni.
Alors, c'est de remettre les personnes, de mettre les personnes en avant, oui. Et surtout de montrer aux gens que bah, le petit artisan local, il n'est pas forcément plus cher que les grandes industries qu'on ne citera pas, pour pas donner de piste aux gens pour aller sur leur site. Mais voilà, on n'a pas besoin de faire des Black Friday pour vendre de la qualité au prix correct.
Et ça, c'est pas Mathéo qui va prendre la parole dans quelques instants, qui te contredira. Donc, si on veut faire des cadeaux, l'idée, c'est d'attendre au moins jusqu'au 14 décembre pour profiter de ce marché de Noël.
Alors, le 13 et le 14, parce qu'en fait, je t'ai donné qu'un seul flyer, mais on est sur les deux jours. C'est juste que... c'est pour ça que ça s'appelle Noël et dans les places, parce que le samedi, on est sur la place de la République, et le dimanche... Et donc, le samedi est organisé par la mairie, mais on travaille ensemble. Et le dimanche est organisé par MJ Entreprendre sur la place Schumann, donc à Juigné même.
Ok, bon bah tout ça, alors pour éclaircir toutes ces informations-là, où est-ce qu'on peut retrouver plus précisément ? Est-ce qu'il y a un Facebook ou un site internet ?
Il y a le Facebook de MJ Entreprendre, l'Instagram aussi, où actuellement là sont diffusées les présentations de tous les artisans, et le site internet de la ville de Montreuil-Juigné.
Bon bah parfait, tu restes avec nous, comme ça tu nous redonnes les infos pratiques dans quelques instants. On fait un petit détour par la chronique cinéma de Mathéo. Mathéo, est-ce qu'il faut que j'envoie le jingle maintenant que tu m'as proposé ou commence avec ta belle parole, ta belle voix ?
Le jingle s'il te plaît Pierre. Décembre 2018, depuis trois semaines, un mouvement fait changer la peur de Caen. Des hommes, des femmes issus des classes moyennes ou populaires, des zones rurales ou urbaines sortent dans la rue pour protester. Au début, contre la taxe carburant, puis pour le pouvoir d'achat. Les gilets jaunes, ce sont leur nom, mais surtout leur look. Et lors de l'acte 3 du mouvement, ils ne sont pas là pour faire de la figuration. C'est entre 136 et 809 000 personnes qui sortent dans les rues. Paris ne ressemble plus à Paris. D'ailleurs, les Parisiens ne sont plus seuls. Ils sont accompagnés de personnes venues de partout en France, notamment des zones rurales. Une réunion populaire qui en a marre de ne pas être écoutée lorsqu'elle est trop calme, un mouvement qui dérange tout en haut. Il suffit d'allumer sa télévision pour le voir.
Eh bien, dans certains pays, et dans des pays très démocratiques, aujourd'hui, ils seraient enfermés, excusez-moi, parce que ça n'existe plus, à Guantanamo.
Aux États-Unis, par exemple,
appelez-le.
Il est évident qu'une grande partie de ces gens-là seraient actuellement, les gens qui ont attaqué directement les forces de l'ordre, auraient subi une réplique létale.
Ils seraient morts.
Ils seraient morts, tirés dessus, blessés, bien entendu, blessés.
Il faut tirer à balles réelles.
Désolé,
non, non. Bah, aux États-Unis, tira à balles réelles.
Hein. Non, mais, ouais, mais oui,
je veux dire qu'aux États-Unis, si on s'en prend un flic, les collègues, ils tirent.
Hein. Bah oui.
Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on ne donne pas les moyens aux policiers de mettre fin à ces violences.
Enfin, parce
c'est insupportable.
Mais parce qu'il y a un risque.
Non,
le risque, que vous connaissez.
Alors. Mais alors, écoutez, franchement, quand on voit des types qui tabassent à coups de pied un malheureux policier qui est par terre, mais enfin, voilà, qui se servent de leurs armes une bonne fois, écoutez, ça suffit. On a, je crois, la 4e armée du monde, elle est capable de mettre fin à ces saloperies.
Les bavures s'enchaînent, un homme est défiguré par un tir de LBD, hein, gardez-le en tête, d'ailleurs il est important dans notre histoire, d'autres se font tabasser par des policiers dans un Burger King. Le lendemain, le climat est redescendu, la France, pays de la Révolution, fait honneur à son histoire, des symboles ont brûlé, mais la répression, elle, n'a que trop fortement existé. Ce qu'il restera de cette soirée, des violences policières croissantes dans les mobilisations suivantes, un passe-droit donné aux forces de l'ordre qui s'en donneront à cœur joie, ce qui mettra fin au mouvement, hein, sortir dans la rue, c'est se mettre en danger, risquer de se faire tabasser ou toucher par un tir de LBD sans rien avoir à se reprocher, si ce n'est contester. Alors quand certains ferment leurs portes, d'autres la gardent grande ouverte, et c'est le cas des réalisateurs. Le cinéma va s'emparer des gilets jaunes pour contrer un récit médiatique centré sur la violence, et ce dès 2019 avec Je veux du soleil de François Ruffin et Gilles Perret.
Qu'est-ce qui vous fait vous vivre à la délinquance comme ça alors?
Délinquance, non, c'est pas une délinquance, c'est une reprise du pouvoir.
Si j'étais monsieur Macron, qu'est-ce que vous me diriez?
Voilà, beaucoup de choses.
Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous connaissez monsieur Macron, je vous en prie.
Moi, ce qui me surprend, monsieur Macron, vous voyez, c'est que vous êtes né dans un autre monde et vous ne comprenez pas le peuple.
Alors il s'en passera des choses depuis, beaucoup de films sont sortis, mais c'est véritablement en 2025, cette année, que le cinéma, et notamment le cinéma plus populaire, va porter le mouvement, avec Les Braises, sorti le 5 novembre dernier. Et puis un autre film aussi, hein, puisque Les Braises n'est pas le seul à porter le mouvement dans son cœur cette année.
Dominique Moll, réalisateur franco-allemand, part d'une bonne intention en souhaitant vouloir laisser une trace dans le cinéma de ce mouvement populaire. Effectivement, un mouvement qui l'a marqué, dit-il, et qu'il a été trop vite oublié à cause de la crise du Covid, laissant en plan des interrogations et une certaine faim amère sur ces questions sociales. Lors de sa sort de sa tête alors Dossier 137, qui sort en fin d'année 2025, film inspiré d'une histoire vraie et plus précisément d'une bavure policière qui a eu lieu pendant les manifestations à Paris, où un jeune militant s'est vu se faire défigurer par un flashball par un membre de la BRI.
Comment vous justifiez votre geste? Nous sommes enquêteurs à l'IGPN, la police des polices. Nous enquêtons sur les fautes que peuvent commettre certains policiers. C'est une infirmière de l'hôpital qui m'a dit de venir ici pour porter plainte pour mon fils Guillaume. C'est à la manifestation de samedi. Un policier.
Connu à Cannes en 2000 avec son thriller Harry, un ami qui vous veut du bien, sans doute son film le plus culte jusqu'à maintenant. Son film a été sélectionné à Cannes en compétition officielle, même s'il est reparti bredouille, a permis au réalisateur de se hisser en tant que quelqu'un d'émergent des années 2000. Ses autres films tels que Le Moine, Des Nouvelles de la Planète Mars ou Seules les Bêtes passent pour la plupart inaperçus mais confirment son goût pour les thrillers. Il a fallu attendre 2022 pour entendre parler de Moll avec son film La Nuit du 12, où il repartira avec la palme du meilleur film de 2022 et la palme du meilleur réalisateur. Franc succès pour Moll. Et surprise, là aussi, il s'agissait d'un thriller policier sur l'enquête d'un féminicide. Bon, en 2025, même ingrédient, enquête, police, mais cette fois centré sur la police des polices, aka l'IGPN. Son film ne pouvait pas mieux tomber vu le contexte social actuel de la France, surtout après les fuites d'images de la police divulguées par Libération et Mediapart il y a ça un mois et demi. Preuve accablante de la violence systémique présente dans les forces de l'ordre. Une question demeure alors, comment Moll se situe vis-à-vis de ces violences? Je vous spoil, il nous fait une thèse, antithèse, telle une dissertation, on sait pas trop. Au premier rôle, on retrouve Léa Drucker. Alors, elle a déjà joué dans Des Nouvelles de la Planète Mars aux côtés du Réal. Mais elle est surtout connue pour les films tels que Le Tableau Volé, sorti en 2024, et son rôle dans Le Bureau des Légendes en 2016, dans la saison 2 et 3. Selon le réalisateur, c'est un choix assez logique, car quand il écrivait le personnage, il a pensé à elle directement. C'est simple en plus, ils ont déjà collaboré ensemble et jouent plutôt bien la grimace pour ce rôle.
Pour le faire, il fallait une comédienne qui est une vraie force, qui oppose vraiment quelque chose aux certitudes ou aux incertitudes du personnage de Léa Drucker. Et voilà, avec Gus Lagy, enfin avec Gilles, du coup, on y a pensé très tôt aussi, même si on a fait des essais avec elle, aussi avec d'autres, mais c'était quand même un peu notre première idée, parce que
Godard disait, le visible et l'invisible. Si vous ne filmez que le visible, c'est un téléfilm que vous faites.
Dossier 137 saute à deux pieds joints dedans. Et oui, chant contre chant répétitif, personnages qui répètent à voix haute leurs pensées. Bon, c'est pas très inspiré à ce niveau-là, on s'en doute. La première partie du film où les plans s'enchaînent sont redondants à mesure que l'enquête se répète avec les témoignages, la scène de course-poursuite vue et revue à coups de pic de tension parce que le personnage fait tomber malencontreusement son téléphone. Enfin bon, voilà. En fait, ça en devient même caricaturel et ça provoque le fait que l'on n'y croit plus. On sort du film à plusieurs reprises. Mention spéciale à la scène entre Léa Drucker, qui joue l'inspectrice, et son fils, adolescent, qui ont une conversation à base de, je cite, « J'ai honte de dire tu travailles dans la police à mes amis. » Ça veut dire quoi ? À cab ? Et sa mère qui répond en deux dialogues, « Il y a des bons et des gentils policiers, tu sais aussi, il faut pas en avoir honte. » Merci Moll pour ce dialogue plein de sincérité, c'est bien, mais difficile de faire plus lourd, et aussi surtout pourquoi tu ne nous montres pas ça à l'écran via les caméras, le but du cinéma. Même chose, à travers une ligne de dialogue vers la fin du film, un personnage pointe du doigt que la BRI sont érigés comme des héros depuis les attentats du Bataclan, puisqu'ils ont déjoué ces attentats, et qu'ils sont difficilement atteignables par la loi en cas de faute grave dans leur service. Super intéressant aussi, mais pourquoi me l'expliquer, moi, à travers une ligne de dialogue ? Mais enfin, vous aurez compris, la narration visuelle, ça n'est pas le fort du film. Je passe les couleurs, la colorimétrie qui reste froide du début à la fin, qui nous rappelle les couleurs standardisées des séries Netflix. La meilleure photographie du film restera les photos réelles des manifestations reprises spécialement pour le générique et celle bienvenue pour rendre hommage à ce mouvement. Bref, un roman avec le même scénario ou un documentaire avec images réelles plus extraits d'interviews des personnes réelles concernées sur ce fait divers serait bien plus marquant.
Bon, il faut le dire. Il faut le dire, ce film ne nous a pas conquis malgré le sujet. Alors si effectivement la mise en scène est aussi neutre, c'est que Moll ne voit pas l'intérêt de la changer. Avant de mettre son film sur pied, il a écrit ce dernier comme une simple restitution des faits et avec facilité. Dossier 137 se trouve dans un entre-deux, filmer le social ou filmer l'enquête, et il ne réussit dans aucun des deux. Les scènes d'interrogatoire sont au début assez sympathiques, mais l'intérêt se dégrade au fur et à mesure des répétitions, et ce pour une raison, les dialogues. Dossier 137 est un film explicatif, trop explicatif. Il passe son temps à raconter son contenu, ce qui, outre le manque de subtilité que cela engendre, nous donne un tableau mécanique et caricatural. Les personnages en sont les premiers touchés, avec un manque de profondeur certain dû aux situations dans lesquelles Dominique Moll les font évoluer. La scène de la gare, l'une des scènes finales aussi, où Léa Drucker rit nerveusement devant son téléphone, autant de moments qui nous sortent du film parce qu'ils sont gras. Le monologue de Léa Drucker est aussi sympathique, certes, mais il n'a aucune raison de le mettre là où il est mis. Il est forcé. Alors toutes ces facilités scénaristiques viennent nous prouver une seule chose, le film ne prend aucun risque. Le sujet des violences policières qui domine, celui des gilets jaunes que l'on explique trop peu, est certes questionné, mais de manière trop frileuse. On nous montre qu'il y a des bavures, on nous montre que certains tout en haut ont des intérêts le temps d'une scène de 10 secondes, mais on ne questionne pas le cœur du problème, le système policier. C'est un film qui garde une vision très bourgeoise, qui sert à remplir des discussions de comptoir plus qu'à jouer le vrai rôle du cinéma, celui de bousculer les mœurs.
Le gouvernement est en panique.
Pouvez-vous me décrire ce que vous voyez ?
Mais sur les images, on voit pas bien.
Ah bon ? Il me semble au contraire qu'on voit très bien.
Qu'est-ce que vous avez vu dans la rue ?
Qui a dit que j'étais à la fenêtre ?
J'espère qu'ils vont pas étouffer la ferme.
Tu vas pas t'y mettre, toi aussi ?
Franchement, c'est la honte. C'est des héros, les mecs. T'as vu tout ce qu'on leur demande ? Tu peux pas te mettre un peu à leur place ?
Mais à force de trouver des excuses à ceux qui déconnent, les flics sérieux qui essaient de bien faire leur boulot, ils vont tous se barrer de la police.
Merci beaucoup Mathéo et Johan pour cette chronique cinéma. Merci aussi à nos invités. On se revoit dans deux semaines.
Eh oui.
Les podcasts, est-ce qu'ils sont enfin disponibles ? Le compte Instagram, la communication associée promise en début de saison, où est-ce que vous en êtes ?
Disons qu'on n'est pas très bon. On n'est pas très bon, mais non, mais on est très studieux. Non, on va beaucoup à la fac, on passe beaucoup de temps à la fac.
Et oui, c'est vrai. Voilà, il y a aussi d'autres impératifs. Merci à vous.
Ça arrivera avant premier plan.
Pour votre on espère pour votre engagement en tout cas déjà.
Ça avance un peu beaucoup, mais on va tenter. Oui.
On va tenter. Merci Johan de modérer. Valérie, t'es encore avec nous d'un tout petit mot du coup. Où est-ce qu'on découvre les informations concernant le marché de Noël, les marchés de Noël de MJ Entreprendre les samedis 13 et dimanche 14 décembre 2025 ?
Sur la page Facebook de MJ Entreprendre et de la ville de Montreuil-Juigné et sur le site internet de la ville.
Tout simplement. Et nous, on vous relaie l'information dans Topette tout au long de la semaine. Comme ça, vous avez l'information pour sûr. Salut Adrien.
Salut.
Topette.
Bah, Topette.
À demain. Bah, à demain si t'es là, si tu veux. Sinon, nous, on sera là à partir de 18h10. Prenez soin de vous. À demain. Et Topette.
Topette.
Hij had die fijne capuchon, was oversized, maar ik was dom. En ik had jou dat ding nooit moeten geven. Hij was eigenlijk niet bijzonder en voor mij te veel gekrompen. En stiekem stond hij jou ook beter. blijf tegen mezelf zeggen dat ik niet zou moeten vertrekken. Maar niks was minder waar. Het was te laat toen ik besefte wat ik nooit heb durven zeggen tegen haar. Was ik maar eerder bij je weggegaan, wat heb ik mezelf toch aan gedaan? Laat die hoodie maar hangen, dan kan je huilen naar mijn verlangen. Was ik maar eerder bij je weggegaan, want je hebt nooit echt je best gedaan. Ik heb dat ding niet meer nodig, nee, want jij bent niet te geloven. Zeggen, maar het tune is genoeg om je nog één keer uit te leggen dat ik niks van je moet. Yo, die hoodie staat je goed, je ziet me lachen als laatst. En dan kun je aan me zien dat het goed met me gaat. En nee, je hoeft me niet te groeten als ik loop door je straat. En de bloemen die ik koop, ja, die gaan naar mama. Helaas, je bent het niet waard. Als ik maar eerder bij je ben.